Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, on va terminer, j'espère, le premier fichier donc des commentaires à partir des Pères de l'Église, les cinq premiers chapitres de Saint Matthieu, donc sur le polycopier à la page 43, c'est le dernier verset du chapitre 5, verset 31 jusqu'au verset 48. Alors, je vais surtout insister sur un passage qui est utilisé par beaucoup d'ennemis de l'Église et même en dehors de l'Église par beaucoup de fidèles qui comprennent mal ce passage essentiel de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir l'acte de répudiation pour les gens mariés. Beaucoup de gens utilisent ce verset, vous voyez, verset 5, 31, enfin, chapitre 5, verset 31, page 43 sur le polycopier. Il a été dit encore que quiconque renverra sa femme lui donne un acte de répudiation. Mais moi, je vous dis que quiconque renverra sa femme, si ce n'est en cas d'infidélité, la fait devenir adultère, et celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. Alors, qu'est-ce que c'était cet acte de répudiation? Donc, beaucoup de gens utilisent ce texte en disant, vous voyez, déjà autant notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur autorisait la répudiation de l'épouse, donc sous-entendu le remariage, qui est absolument faux. L'acte de répudiation, c'est une protection qui avait été donnée surtout par Moïse à cause du cœur dur des Juifs, qui avait autorisé, ce qui est du bon sens élémentaire, dans des cas où deux époux ne s'entendaient pas du tout, au lieu qu'ils se bagarrent et qu'ils s'entretuent, et autorisait pour une raison grave l'époux à demander un acte de répudiation et une répudiation officielle de l'épouse. Ou l'inverse aussi. C'était aussi utilisé dans les cas d'adultère, d'infidélité, de choses comme ça. Mais il n'a jamais été question dans l'Église catholique d'accepter un remariage. Donc c'est une simple séparation officielle, c'est tout. Bon. Alors la seule chose qui est vraie dans ce domaine, c'est que avant, au début au moins dans l'Ancien Testament, notre Seigneur Jésus-Christ, enfin le bon Dieu, avait accepté pour peupler le ciel, pour peupler pendant la terre, il avait accepté la polygamie. On voit la polygamie, par exemple, c'est tous les patriarches. Bon. Mais ça, c'est une exception, encore une fois, qui était une tolérance de l'Église de l'Ancien Testament, justement à cause du fait qu'il fallait peupler le sol, peupler la terre. Alors donc, cet acte de réputation n'était pas du tout une autorisation de divorce. Donc voilà ce que disent les pères ici. J'ai pris quelques textes chez les pères. Plus tard, le Sauveur expliquera plus à fond ce passage en faisant voir que si Moïse a commandé aux maris, à cause de la dureté de leur cœur, de donner un acte de répudiation, ce n'est pas pour légitimer le divorce, mais pour prévenir l'homicide. Lorsque Moïse délivra les Israélites de l'Égypte, ils étaient enfants d'Israël par leur naissance, mais égyptiens par leur mœurs. Or, par suite de ces mœurs idolâtres, il arrivait souvent qu'un homme concevait de la haine pour sa femme, et comme il ne lui était pas permis de la renvoyer, il était porté ou à la mettre à mort ou à la fatiguer de mauvais traitements. Bon. Il fit donc une obligation au mari de donner un certificat de répudiation, non comme une chose bonne en soi, mais comme un remède à un mal plus grand. C'est donc aux scribes que la loi renvoyait celui qui voulait se séparer de sa femme, en leur ordonnant de donner l'acte de répudiation dans l'espérance que leur entremise pacifique ramènerait la concorde entre les deux époux, que l'acte de répudiation serait inutile, à moins que leur mauvaise disposition ne rendisse impossible tout moyen de réconciliation. L'époux innocent restait seul ou se réconcilier, mais ne pouvait en aucun cas se remarier. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que à l'époque où Moïse a donné l'acte de répudiation, Donc c'était l'époque où il y avait encore l'acceptation de la polygamie. Donc quand une femme était renvoyée, alors l'époux gardait les autres femmes légitimes qu'il avait. Mais en aucun cas, ça peut être accepté comme un divorce. Alors, je voudrais pour profiter de ce passage pour mettre un peu les pendules à l'heure là-dessus, les barbes sur les points sur les i, comme on dit, au niveau des invalidations de mariage. Parce qu'on entend parmi les traditionalistes, je reçois aussi parfois des messages là-dessus sur Internet, des choses étonnantes de gens qui pensent, surtout les jeunes, qui se marient avec une petite idée derrière la tête que si par hasard ça ne marche pas, ils peuvent toujours aller voir un représentant de l'Église de Vatican II, se démarier et tranquillement se remarier après religieusement devant l'Église de Vatican II et après récupérer, revenir dans nos chapelles. Hein. Alors ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Il faudrait que les choses soient claires. Hein. Donc le dogme de foi catholique est très net, très clair. Le dogme est suivant. Tout mariage religieux, tout mariage, on dit raté, j'expliquerai les termes après, tout mariage ratifié et consommé entre deux catholiques est on dit, ne peut être détruit par aucune puissance au ciel et sur la terre. C'est donc dire que l'Église ancienne, que lorsque deux personnes sont mariées, avec consommation du mariage, attention, et consommation du mariage, ce qu'on dit un mariage ratifié et consommé, ce mariage ne peut être détruit que par la mort d'un des deux époux. Donc, aucune autorité au ciel et sur la terre, ça veut dire que même Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage de ce genre. Alors, on va expliquer après justement les cas particuliers du droit canonique, parce que les gens nous sortent ces arguments pour lui dire, mais vous voyez très bien que l'Église a toléré le remariage, et donc pourquoi on ne peut pas accepter aujourd'hui un remariage? Bon. Alors, il y a d'autant plus de confusion là-dedans que dans l'Église de Vatican II, ils ont, dans la pratique, accepté le divorce. Bon, ils acceptent le divorce, ils n'appellent pas ça divorce, ils n'appellent pas ça remariage, ils appellent ça annulation de mariage. Donc, ce qu'il faut d'abord se mettre dans la tête, et ça je pense que c'est très important, ça j'insiste pour tous les gens qui m'écoutent sur Internet, et bien comprendre que l'idée même d'annulation de mariage n'existe pas. Il ne peut pas y avoir d'annulation de mariage. Quand un mariage est valide, et ratifié, consommé, il est indéboulonnable. D'accord? Sauf par la mort. Et ça doit être clair, parce qu'il faut que les gens comprennent ça, parce que c'était tellement, tellement important que pendant un temps, je ne sais pas s'ils le font toujours, dans la fraternité Saint-Pédis, quand j'étais un membre de la fraternité Saint-Pédis, on était obligé de faire signer un acte pour les préparations, fin des préparations au mariage, avant le mariage, un acte une déclaration d'intention par les deux fiancés qui signaient un papier disant. Nous nous rendons parfaitement compte que nous allons nous marier devant un prêtre qui n'a pas une juridiction ordinaire, mais une juridiction seulement extraordinaire à cause des circonstances, parce que nous voulons la messe traditionnelle et que nous ne pouvons pas trouver dans l'Église moderne des prêtres qui forment avec la formation traditionnelle de l'Église sur le mariage. Et donc, nous allons vers des prêtres de la tradition. Mais nous nous engageons à ne jamais demander une annulation de notre mariage devant l'Église moderne. Et les choses doivent être claires là-dessus, parce que j'ai eu des grosses difficultés, je ne vais pas citer de nom, mais de grosses difficultés avec quelqu'un de la tradition, un ponte de la tradition très connu, un laïc, qui a osé me dire que je n'avais pas le droit d'enseigner ça. Alors que c'est en toutes lettres dans les livres de théologie, la thèse, je l'ai trouvée. Dans Zubizarreta, qui est l'ancien archevêque de Cuba, donc qui a écrit un livre qui n'est pas traduit en français, j'ai les quatre volumes ici. La théologie dogmatique de Zubizarreta est un grand classique qu'on disait au séminaire, et c'est là où la thèse est parfaitement bien expliquée. Donc je la répète, tout mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être annulé par aucune autorité au ciel et sur la terre. C'est-à-dire, le pape ne peut pas l'annuler, et Dieu lui-même ne peut pas l'annuler. Alors, on va voir un peu on va voir un petit peu les détails pour être sûr que les choses soient claires, parce qu'on a de plus en plus de problèmes avec moi, en tout cas j'avais de gros problèmes quand j'étais dans la fraternité avec des jeunes qui se mariaient avec une fausse intention. Et ils ne le disaient pas, donc ils savaient ce qu'il fallait dire au prêtre et ce qu'il ne fallait ne pas dire au prêtre dans les préparations de mariage. Et donc, ils gardaient une fausse intention dans leur esprit, on ne le disait pas. Et parfois, on s'en doutait. Je suis obligé de leur dire attention. Hein. Si il y a actuellement dans votre cervelle un petit démon qui vous souffle à l'oreille que on se marie devant près de la fraternité Saint-Pilis, mais si ça ne marche pas, il y aura toujours une porte de sortie, c'est-à-dire d'aller voir après de la nouvelle église, de se remarier, de se démarier, puis de se remarier religieusement avec lui, après de revenir dans la chapelle de la fraternité, sachez que c'est impossible. À ce moment-là, votre mariage actuel que vous comptez célébrer devant nous est invalide. Alors voilà les textes. Oui.
Ça
ne
veut pas dire qu'ils sont excommuniés.
Non, il n'y a rien à voir avec une excommunication.
Il y a pas...
C'est une question de validité, la validité de sacrement. Donc, je vous donne ainsi les textes. Donc, ça part de Saint Matthieu, on verra ça plus tard, c'est au chapitre 19 de Saint Matthieu, verset 6. Tout mariage est de. Tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni. Donc, l'Église enseigne tout mariage est de droit naturel intrinsèquement indissoluble. Bon. Alors là, encore une fois, il faut faire un petit peu attention parce qu'on entend des grosses bêtises. Je vais en parler parce que c'est important, on entend trop de bêtises sur ce sujet de la part de traditionnalistes, parfois de bonne foi, qui vont nous dire. Qui vont dire par exemple à deux personnes attention, vous étiez marié à la mairie, puisque vous étiez marié à la mairie, vous n'étiez pas marié, donc vous pouvez vous remarier. Vous êtes obligé de dire aux gens attention, ça, un mariage à la mairie ne vaut rien, c'est même pas un mariage pour des catholiques, mais pour des non-catholiques, ce peut être un mariage valide. Hein. Faut pas oublier ça, parce que quelles sont les conditions pour qu'un mariage soit valide ? Sur le plan naturel, ce qu'on appelle un mariage naturel. Il faut bien savoir que seuls les catholiques sont tenus par les obligations canoniques du mariage chrétien. À savoir de se marier en principe devant, en principe c'est devant l'épouse, le curé de l'épouse, en présence de deux témoins. Bon. Après, on verra les détails. Donc, en principe c'est comme ça. Donc, pour un catholique, le mariage civil n'existe pas. C'est une... simple formalité administrative qu'on peut utiliser sans péché, mais ce n'est pas un mariage. Bon, ça, je dis souvent aux gens qui ne suivent d'ailleurs pas mon conseil, et c'est bien dommage. Je dis souvent aux gens qui veulent se marier, qui sont obligés de passer devant le maire, dire, devant le maire, mais vous y allez vraiment sans être sur votre 31, parce que c'est une simple formalité administrative. C'est aussi important que payer votre facture d'électricité ou de gaz. C'est une formalité administrative qui n'a aucune valeur pour un catholique. Mais, pour un non-catholique qui n'est pas baptisé, je parle d'un païen, d'accord ? Un païen qui n'est pas baptisé, n'ayant pas le baptême, n'est pas tenu aux lois canoniques de l'Église. Donc, si deux païens se marient devant monsieur le maire, avec l'intention de conserver les trois conditions du mariage naturel, le mariage est valide. Alors, quelles sont ces trois conditions ? Vous vous rappelez les trois conditions du mariage pour qu'un mariage soit valide?
Tu assisteras ta femme, tu...
Non, c'est pas ça. Il y a trois mots, il faut bien connaître. Unité, indissolubilité, les enfants. Oui. Donc, pour qu'un mariage naturel, je dis naturel, ça veut dire qu'il n'est pas un sacrement. Un mariage naturel entre deux païens qui ne sont pas tenus aux lois de l'Église, il faut l'unité, ça veut dire on ne fait pas intervenir une troisième personne dans le couple. L'indissolubilité, on se marie pour la vie, on accepte les enfants. Dans ce cas-là, pour des païens qui se marient devant monsieur le maire, ou devant leur autorité, l'autorité païenne, le chaman pour des exemple en Afrique, avec intention de garder l'unité, l'indissolubilité et les enfants, le mariage est valide. Ils sont mariés, c'est pas un sacrement, mais ils sont mariés. Supposons que ça aussi.
Ils sont mariés devant Dieu, ça veut dire ça ?
Le mariage est valide, ils sont mariés et femmes devant Dieu. À tel point que si par hasard ces personnes se convertissent, moi ça m'est arrivé souvent d'avoir des choses comme ça, des gens comme ça qui finalement, avec la grâce du bon Dieu, par l'intermédiaire de relations, entendent parler du site, commencent à écouter les conférences du site, ils commencent à écouter les catéchismes, et viennent nous voir pour demander le baptême. On les prépare, on les baptise. Donc, ils étaient païens, ils deviennent catholiques. Souvent, ils me demandent, vous savez, maintenant, il faut qu'on se marie. Et je leur dis, non, vous n'avez pas besoin de vous marier. Vous êtes déjà mariés. Le baptême, à ce moment, qu'est-ce qu'il a fait ? Le baptême va élever le mariage naturel courant, surnaturel. Bon, souvent ce que je fais, c'est un renouvellement de l'intention devant le prêtre, si vous voulez, pour leur paix de conscience. Mais strictement parlant, de personnes mariées naturellement, avec un mariage valide, attention. Donc les trois conditions d'unité, d'indissolubilité et des enfants qui sont baptisés, qui deviennent catholiques, n'ont pas besoin de se remarier parce qu'ils sont ipso facto mariés, religieusement devant Dieu, d'accord ? Par le baptême. Hein ? Alors, je vous donne ici les textes, parce que vous pouvez bien les connaître. Les propriétés essentielles du mariage donc, sont l'unité et l'indissolubilité qui obtiennent une fermeté particulière dans le mariage chrétien à cause du sacrement. Ça, c'est le code de droit canonique numéro 1013. Alors, il faut rajouter le code de droit canonique 11-18 qui dit « Le mariage valide, ratifié et consommé, ne peut être dissous par aucune puissance humaine et par aucune cause sauf la mort. » Donc la mort seule va pouvoir annuler un mariage valide. Alors, d'où viennent les confusions ? Donc, beaucoup de catholiques, même dans la tradition, pensent qu'un mariage pourrait être annulé comme d'un coup de baguette magique par un empêchement d'irriment. Bon. Un empêchement d'irriment. Alors, ce qui peut être vrai, c'est qu'il peut y avoir des cas où un mariage était invalide depuis le début, mais qu'on croyait les gens validement mariés parce qu'on ignorait qu'il y avait un empêchement qui faisait qu'il n'y avait pas de mariage. Bon. C'est très rare. Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux en 40 ans de sacerdoce. Bon. C'était un cas, deux personnes qui étaient mariées religieusement, de bonne foi, et lui était un ancien GI de l'armée américaine, et après la guerre du Vietnam, il y a eu tellement de dégâts sur le plan psychologique chez les soldats, que l'armée américaine a dû organiser des espèces de nettoyage de mémoire des soldats parce qu'ils avaient eu trop d'horreur, ils devenaient à moitié fous. Et donc ils ont littéralement oblitéré les mémoires de ces certains soldats à cause de toutes les horreurs qu'ils avaient eues au Vietnam. Et puis on s'est aperçu, donc des années et des années après, les opérations avaient été faites tout à fait validement devant l'église, c'est-à-dire qu'on avait demandé un certificat de baptême qui était arrivé vierge en disant que cette personne n'a jamais été mariée, donc la personne s'était mariée religieusement, pas de problème. Ils vivent ensemble, des enfants et tout. Et puis des années et des années après, monsieur a voulu se faire confirmer parce qu'il n'avait pas été confirmé, ou reconfirmer ses conditions. Donc on redemande un certificat de baptême, ce qu'on fait à chaque fois qu'on a une confirmation. Et cette fois-ci, la deuxième fois, le certificat de baptême est arrivé qu'une note, ce qu'on appelle une note marginale qui disait marié avec telle personne au Vietnam il y a tant d'années. Le gars n'était pas au courant. Il ne se rappelait plus du tout. Et vraie vérification faite, effectivement, quand il était GI, il s'était marié religieusement avec une Vietnamienne catholique. Comme beaucoup de jeunes l'avaient fait là-bas, un petit peu sur des coups de tête, parce que bon, ils réfléchissaient pas trop à ce qu'ils voulaient, mais avec un mariage valide. Dans ce cas-là, le deuxième mariage devient invalide. Ce n'est pas une invalidation de mariage. Ça veut dire, vous pensiez marié, mais en fait, vous ne l'étiez pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait ce qu'on appelle empêchement d'irriment de lien. Empêchement d'irriment de lien, ça veut dire que vous êtes déjà marié, vous ne pouvez pas vous remarier. Mais c'est très rare. Bon. Alors, il ne faut pas aussi dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent, je vais faire peut-être le cours là-dessus, parce que je pense que c'est important pour que les idées soient claires là-dessus. Il ne faut pas aussi se dire, oui, mais comprenez, la plupart des gens, quand ils se marient aujourd'hui, ils ne pensent pas trop à ce qu'ils font. C'est faux. 99% des gens qui se marient, quand ils se marient, je parle des gens qui ont la foi, hein, qui sont baptisés au moins, 99% des gens qui se marient, quand ils se marient, ils veulent se marier comme tout le monde. Que vous leur demandez, vous l'aimez ? Oui. Vous allez accepter les enfants ? Oui. Vous vous mariez pour toute la vie ? Oui. Vous vous mariez et vous n'acceptez pas une troisième personne dans l'histoire. Hein. C'est simplement vous et elle, c'est tout, personne d'autre. Ah oui, pas de problème, mais respect, fidélité et tout et tout. Donc quand ils se marient, ils acceptent l'unité, l'indissolubilité, les enfants. Les trois conditions, ils sont mariage valide. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est que dans l'Église moderne, l'Église de Vatican II, ils ont dans le nouveau code de droit canonique qui a été mitonné par Jean-Paul II en 1983. Ils ont une nouvelle règle qui dit que si on peut prouver qu'il y avait un manque de maturité au moment du mariage, le mariage est invalide. Alors avec un manque de maturité comme ça, on peut détruire, annuler les mariages de tout le monde. Je disais aux personnes que je connaissais, quand on a commencé à parler de ces choses-là, je leur disais, mais des gens qui sont mariés depuis 50-60 ans, vous pouvez toujours dire que vous étiez passé mûr le jour de votre mariage à 60 ans, et donc on annule votre mariage. Donc il faut que les choses soient claires. Deuxième chose, deuxième source d'erreur, deuxième source de confusion vient du fait que beaucoup de gens pensent qu'un mariage qui est valide au début deviendrait invalide au bout d'un certain temps si les conditions essentielles du contrat, l'unité, l'indissolubilité et l'acceptation des enfants ne sont plus voulues par l'un des deux contractants.
Ça change.
Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils disent, bon, voilà, au début, on s'est mariés, on avait vraiment l'intention de l'unité, l'indissolubilité des enfants, donc on était validement mariés. Mais après, maintenant, j'ai plus l'intention. Je crois plus à l'indissolubilité du mariage, je croyais plus à l'unité du mariage avec mon épouse, et j'ai plus d'enfants. Donc, le mariage est invalide. Ah, attendez. Ce qui compte, c'est est-ce que le mariage était valide? Valide ou non, au moment de votre mariage, le jour du mariage, est-ce que vous acceptiez unité, indissolubilité des enfants? Oui, vous êtes marié. Ah, mais j'ai changé d'idée 3 ans après. Monsieur, c'est pas... vous êtes marié. Monsieur, madame, vous êtes marié. Oui, ça, il faut que les choses soient claires. Alors, pour ceux que ça intéresse, je suis en train de... j'utilise un texte pour expliquer tout ça. Donc, c'est la lettre numéro 67, annulation de mariage, une grande supercherie. Donc, si vous voulez travailler un petit peu ça, donc, sur le site d'Anne Marie, donc vous allez chercher les lettres doctrinales, il y a lettre numéro 67, annulation de mariage, une grande supercherie, et il y a aussi une conférence qui correspond à ça. Donc je vais résumer un petit peu tout ça pour que les choses soient claires.
Non, j'ai une question. Si oui. Jamais il divorce, et puis ensuite, bon, il se remarie, alors à ce moment-là, le mari ou la femme aura commis un adultère, on est d'accord avec ce que dit
oui.
Jésus.
Bien sûr.
Okay. Mais bah, après, est-ce qu'ils peuvent justement après aller se confesser et se dire « Ah, mais j'aurais pas dû me remarier, je suis un adultère, je me confesse pour redevenir droit devant Dieu, est-ce que c'est bon ou pas ?»
Ben, c'est pas ça qui va valider le deuxième mariage.
Oui, mais alors du coup, est-ce qu'ils vont être toujours empêchés
Ben, c'est pour ça que dans un cas comme ça, si une personne qui est mariée légitimement, religieusement devant Dieu, vient nous voir, qui vit avec une autre personne, ce qu'on appelle les divorcés remariés, bon, ils viennent nous voir en disant « Ah, je regrette beaucoup. » Regrettez beaucoup, ben, prouvez-le. Donc c'est ou une séparation, ou dans certains cas très particuliers, surtout dans les préparations au mariage, quand on vient à quelques mois du mariage, que c'est ce qu'on appelle des régularisations au mariage, ça arrive très souvent aujourd'hui, des gens qui vivaient en concubinage, on leur dit, écoutez, jusqu'au mariage, vous devez vivre comme frères et sœurs dans la maison. Bon, il faut que ce soit sérieusement fait, il y a deux chambres différentes. On tolère dans certains cas, justement, pour... souvent quand il y a des enfants, pour des raisons pratiques. Bon. Et puis à ce moment-là, c'est valable. Mais si la personne, dans le cas dont vous parlez, ne veut pas vivre comme frère et sœur, au minimum, ou se séparer, ce qui est mieux dans 99% des cas, on refuse l'absolution. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas dire, oh mon Dieu, je regrette le péché que j'ai commis, mais on reste en situation de péché, c'est se moquer du bon Dieu. D'accord. Bon. Alors, avant de passer à la troisième source de confusion, je voudrais vous lire le texte donc, d'un très bon livre, qui est un livre excellent qu'on utilisait au séminaire de Cône pour les préparations, pour le cours de théologie morale sur le mariage. Donc, c'est le catéchisme catholique du Père Barbara qui est excellent. Voilà ce qu'il dit. L'Église étant seule compétente pour juger des causes matrimoniales, chaque fois que l'un ou les deux conjoints auront des raisons de croire leur mariage nul, ils s'adresseront à l'Église qui fera une enquête très sérieuse. Si cette enquête établit avec certitude que pour telle raison ce mariage n'a pas été valide, qu'il est donc depuis le début inexistant, l'Église en déclarera officiellement la nullité. Ce n'est pas une annulation de quelque chose qui était valide au début et qui après, d'un coup de baguette magique, devient invalide. L'Église constate que dans certains cas, il peut y avoir un mariage que tout le monde croyait valide au début, qui en fait ne l'était pas. D'accord ? Ça, c'est rare. C'est des choses assez rares. Bon. Alors, la troisième source de confusion, c'est l'argument du manque de maturité au moment du mariage religieux, très souvent invoqué aujourd'hui, n'est pas acceptable dans la plupart des cas, car l'immense majorité des gens qui se marient à l'église savent très bien ce qu'ils font et se marient, comme tout le monde, avec intention très claire de rester ensemble dans la fidélité pour toute la vie, pour fonder une famille. Bon. Il peut arriver, mais c'est encore une fois des cas assez rares, où des personnes qui n'ont pas reçu d'éducation du tout, j'ai eu un cas comme ça aussi, où la jeune fille venait d'un milieu où elle n'avait pas du tout été formée par sa mère de ce côté-là, c'est le travail de la mère. Et la jeune fille n'avait pas du tout compris qu'il y avait dans le mariage une partie physique, l'union de deux corps physiquement parlant, les relations conjugales. Et elle n'était pas d'accord avec ça. Alors là, c'est autre chose. Là, c'est en fait que ce n'est pas un mariage, si elle s'est mariée dans ces conditions-là, ce n'est pas un mariage, pourquoi? Parce qu'elle refusait, en fait, elle n'acceptait pas les enfants, puisqu'elle refusait les moyens normaux d'avoir des enfants. Dans ce cas-là, c'est un mariage qui est nul. D'accord? Mais encore une fois, il ne faut pas croire qu'un mariage peut être valide au début, puis invalidé après par l'Église. L'Église n'a aucun pouvoir pour annuler un mariage. C'est impossible. D'accord? Alors, on va voir ce qui se passe pour les véritables annulations de mariage. Alors, il faut connaître un peu ces choses-là. Surtout aujourd'hui, il y a encore plus de confusion parce que malheureusement, dans la fraternité sacerdotale Saint-Pilice, il y a de plus en plus de prêtres qui estiment avoir le droit de créer, ils ont créé dans la fraternité, un peu sous l'autorité de Mgr Galaretta, Mgr Felet, une espèce de tribunal qui certains prêtres prétendent que la fraternité sacerdotale Saint-Pilice a maintenant le pouvoir d'annuler des mariages. Donc, réponse, le pape lui-même n'a pas le pouvoir d'invalider un mariage. Sauf cas très particuliers qu'on va expliquer, qui sont prévus dans le droit canonique traditionnel. D'accord ? Donc, au risque de me répéter, rappelons que, dans le cas d'un mariage valide et consommé entre deux baptisés, seule la mort d'un des conjoints rompt le lien sacré et rend à l'époux survivant la liberté de contracter de nouvelles noces. Bon. Alors, cependant, il existe quatre circonstances. Ça, c'est des choses que j'ai prises surtout dans la catéchèse catholique du Père Barbara, qui est tout à fait correcte, un livre parfait. Cependant, il existe quatre circonstances dans lesquelles le lien d'un mariage valide peut être rompu. Donc, c'est au numéro 25 pour ceux qui sont intéressés de la catéchèse catholique du mariage du Père Barbara. Ces quatre circonstances sont des cas d'exception rares correspondant à des situations très spéciales. Premier cas. Pour les deux premiers cas, d'abord des généralités. Pour les deux premiers cas concernant des mariages non consommés. Mariage non consommé, ça veut dire quoi? C'est le mariage sans relation physique entre les deux époux, qu'on appelle un mariage blanc. C'est le cas du mariage de Saint-Joseph et notre Seigneur Jean-Marc. Pour les deux premiers cas, concernant des mariages non consommés, mariage blanc, souvent pour des époux qui ont fait un vœu de chasteté parfaite, l'exemple de Notre-Dame et de Saint-Joseph, ou par exemple, il y a des cas historiques comme l'empereur d'Allemagne Saint-Henri et son épouse Sainte-Cunégonde, donc qui ont fait un mariage en blanc, qu'on appelle un mariage en blanc, c'est un mariage valide, attention. Ils acceptent le principe d'avoir des enfants, mais pour une raison supérieure, à cause de leur vœu de chasteté, ils décident de ne pas avoir d'enfants. D'accord ? Pour le troisième cas, ça concerne uniquement un mariage naturel entre deux païens. Et le quatrième cas, concerne un mariage entre un baptisé et un non-baptisé dans ou hors de l'Église catholique. Donc, on va voir maintenant ces quatre cas pour que les choses soient claires. Premier cas, c'est le cas des vœux solennels dans le cas d'un mariage valide mais non consommé entre deux baptisés, entre un baptisé et un infidèle. Donc, attention au cas, un mariage religieux, donc valide, acceptation des enfants, l'unité de l'indissolubilité, mais non consommé, ce qui est rarissime. Ça veut dire que des personnes, il faut pouvoir le prouver, ce qui n'est pas évident, donc n'ont jamais consommé leur mariage. Bon. Dans ce cas-là, si l'un des deux conjoints entre dans un ordre religieux à vœux solennels, sa profession solennelle prononcée validement rompt de plein droit le lien de ce mariage et l'autre conjoint alors seulement se trouve libre de contracter une nouvelle union. Ça n'arrive pas tous les matins. Imaginez un mariage comme ça, la personne se marie religieusement avec un vœu de chasteté et puis le mari par exemple demande l'autorisation à sa femme, légitime, de rentrer dans un séminaire pour devenir prêtre. Bon. Il va y avoir un problème au moment où il va faire son vœu de chasteté, au moment de son sous-diaconat. Non. Si l'épouse est d'accord, il peut rentrer au séminaire, dans un cas comme ça, c'est des cas d'école, mais ça peut arriver. Il y a eu quelques cas. Il peut rentrer au séminaire, mais au moment où il va devoir faire son vœu de chasteté, il est en fait marié. D'accord ? Il est marié d'un mariage non consommé, attention. Donc, au moment précis où il va faire son vœu de chasteté, son premier mariage non consommé s'écroule. Il n'y a plus de mariage. Donc, l'épouse qui reste séparée de son mari pourrait, dans ce cas-là, se remarier. D'accord ? Vous voyez, les cas, c'est très précis. Donc, le mariage non consommé entre les baptisés, ça c'est le code de droit canonique, le mariage non consommé entre les baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous de plein droit par la profession religieuse solennelle à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre. Donc à partir du moment où la femme, par exemple, rentre dans un couvent à vœux solennels, au moment où elle fait ses vœux solennels, évidemment, le mariage saute, mais ce n'est valable que dans le cas d'un mariage non consommé. D'accord ? Deuxième cas. Alors, attendez, il y a un texte du Concile de Trente, là, je vous cite aussi pour vous expliquer. Celui qui dit qu'un mariage ratifié non consommé n'est pas dissous par la profession religieuse solennelle de l'un ou l'autre cas, de l'un ou l'autre conjoint, qu'il soit anathème. Donc, c'est clair, l'Église enseigne, si on a un cas de mariage véritable non consommé, l'Église a le pouvoir de déclarer au moment où l'un des deux conjoints fait un vœu solennel de chasteté, le mariage antécédent non consommé est dissous. D'accord ? Deuxième cas. Dispense du pape dans le cas d'un mariage valide mais non consommé entre deux baptisés ou entre un baptisé et un infidèle. Bon, on va expliquer rapidement. Si pour une juste cause, abandon, incompatibilité d'humeur, impuissance douteuse, etc., les époux, ou même l'un des deux seulement, malgré l'opposition de l'un, de l'autre, en faisait la demande, le souverain pontife seul possède le pouvoir de rompre ce lien. Mais attention, encore un mariage non consommé. D'accord ? Voilà le code en question. Le mariage non consommé entre les baptisés, entre une partie baptisée et une partie non baptisée, est dissous par une dispense concédée par le siège apostolique pour une juste cause à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre. C'est des cas récits, mais j'ai connu un cas. Une personne qui était mariée religieusement. La jeune fille, c'est des choses qui peuvent arriver dans certains milieux. La jeune fille devenue épouse, donc, a refusé d'avoir des relations conjugales avec son époux. Elle n'a jamais voulu consommer le mariage. Par peur, par... Moi, à mon avis, le cas que je connaissais en tout cas, je pense parce qu'elle s'était rendu compte qu'elle avait fait une erreur. En tout cas, le mariage n'a jamais été consommé. Dans un cas comme ça, si le mariage n'a pas été consommé, il est possible pour le pape de déclarer l'invalidité du mariage. Vous voyez ? Mais encore une fois, ce n'est pas n'importe quoi comme mariage. C'est des cas de mariage non consommé. Bon. Troisième cas, ce qu'on appelle le privilège paulin. Bon. Donc, je répète, les deux premiers cas, c'est des cas de mariage véritable, valide, religieux, dans lesquels les trois conditions, bien sûr, sont acceptées, unité, indissolubilité et les enfants, mais des cas de mariage non consommé, ce qui est rarissime. Bon, ça arrive, je ne sais pas combien de fois, je n'ai pas de chiffre en tête, mais c'est peut-être un mariage sur 1 million, un truc comme ça, c'est très très rare. Ça pourrait arriver pour des personnes très âgées, d'accord ? Des veufs qui sont, une veuve qui se marie, par exemple. Troisième cas, privilège comme Paulin. Alors ça aussi, là, c'est différent. Là, on va rentrer dans des cas de mariage naturel, mais des mariages consommés. Privilège Paulin. Dans un cas d'un mariage naturel valide, même consommé, contracté entre deux païens. Donc attention au cas. On est le cas entre deux païens qui ont un mariage naturel, c'est-à-dire marié devant monsieur le maire ou l'équivalent, même consommer des relations conjugales entre les deux époux, mais entre deux personnes qui ne sont pas soumises aux lois canoniques de l'Église parce qu'elles ne sont pas baptisées. Vous suivez ? Bon. Lorsque, après un mariage contracté validement et même consommé par deux non-baptisés, donc on n'a pas affaire à un mariage religieux puisqu'ils ne sont pas baptisés, l'un des deux se convertit et reçoit le baptême, si l'autre ne veut pas se convertir, ni habiter pacifiquement avec son conjoint devenu chrétien, le lien de ce mariage valide peut être rompu et l'époux chrétien peut contracter validement un nouveau mariage. Bon, c'est le cas. Les cas de mission. On avait des cas comme ça dans l'émission. Donc, des païens. Païen complet. Madame, en général, c'était la femme. Commence à tourner un peu autour de la mission. Et puis finalement, on demande le baptême. Bon. Si l'époux catholique, l'époux non catholique, refuse la cohabitation pacifique avec sa nouvelle épouse, avec son épouse, qui est toujours la même, mais qui est baptisée maintenant. Bon. Il y a des cas comme ça, où l'époux ne veut pas l'entendre parler, surtout dans des pays de mission, où il y a une haine farouche, féroce contre le catholicisme, il peut y avoir des cas où le mari ne veut pas l'entendre parler. Cohabitation pacifique, impossible. Donc, c'est des coups, des menaces, pratiquement des viols, quoi, littéralement, parce que monsieur n'a jamais accepté la conversion de son épouse. Dans un cas comme ça, l'Église peut accorder ce qu'on appelle un privilège pour l'un, parce que Saint Paul en parle, et annuler le mariage naturel préexistant, pour protéger la foi du nouveau converti. Vous voyez le cas ? Non. On a dû faire des cas comme ça, surtout le papillon, ce qui a réglé pas mal de choses au niveau des missions. On avait d'énormes problèmes dans les missions qui étaient insolubles. Entre autres, dans tous les pays très fréquents en Afrique, où ils acceptent la polygamie. Prenez un pays comme le Gabon, au moment du contrat de mariage, les Gabonais peuvent choisir une épouse ou quatre. La plupart n'en veulent qu'une, mais si toujours quatre, faites toujours quatre au cas où. En cas de pépin. Bon, évidemment, un catholique n'a pas le droit de faire ça, c'est évident. Bon, mais chez les païens, c'est très fréquent. Ils ont en général quatre épouses. Lorsqu'un de ces païens se convertit, bon, il y a problème. Il se convertit, une bonne fois, il veut devenir baptisé, il demande le baptême, il fait sa préparation au baptême pendant parfois au moins un an, parfois deux ans même complet, pour qu'il apprenne à vivre comme un catholique. Il veut vraiment sérieusement devenir catholique, mais il a quatre épouses, ça fait trois de trop ça. Alors laquelle est la vraie ? Aucune, puisqu'il y en a eu quatre depuis le début. Donc, dans ce cas-là, c'était Papillon qui avait expliqué la chose, avec à mon avis, juste de juste raison, c'était tout à fait correct. Il avait dit, l'époux qui devient catholique a le choix, soit il garde une des quatre, mais il est obligé d'envoyer les trois autres, soit il en prend une autre. En général, c'est ce qui se passait, parce qu'il va l'épouser quelqu'un qui est de religion catholique. Alors, ça posait des problèmes insolubles dans les milieux de mission. Pourquoi ? Parce que dans les pays de mission, en Afrique par exemple, c'était comme ça, on achète sa femme. Ce qu'on appelle le mariage coutumier. Et donc, quand un mari, un époux, devient catholique, ou l'épouse devient catholique, c'est tout le cas pour l'époux, le problème c'est surtout quand il y a un cas de l'époux devient catholique, il doit renvoyer ses quatre épouses, parce qu'il veut se marier avec une femme catholique et fonder un mariage catholique. Il n'est pas question de renvoyer les quatre épouses comme ça. Non, vous pouvez partir. Prenez vous-même, vous partez. Il faut rembourser la dot. Or, les dots dans certaines tribus sont considérables. Une dot, par exemple, ce serait une voiture. Une voiture dans des pays pauvres africains, ça correspond à des années de salaire. Et donc, il y a des tas de gens qui restent dans des situations anormales comme ça parce qu'ils n'ont pas l'argent pour rembourser les dots. Si renvoyer une fille... Leur épouse, qu'ils ont prise légitimement devant les lois de la tribu. Sans dot, ils se feraient immédiatement tuer. Vous voyez ? Donc il y a des cas impossibles. C'est pour ça que l'Église a mis le privilège pour l'un. Attention, il faut bien comprendre le privilège pour l'un. C'est un cas d'un mariage naturel entre deux païens. L'un des deux devient catholique. L'époux légitime refuse la cohabitation pacifique. Ça devient impossible. À ce moment-là, le mariage naturel est rompu par le pouvoir du privilège pour l'un, donc c'est le pape qui accorde ça, et la personne a le droit de se marier. Donc là, il y a vraiment une annulation d'un mariage naturel. D'accord ?
Est-ce que vous entendez quand vous dites qu'il refuse la cohabitation pacifique ?
Ça veut dire que la personne, le païen, dans les deux, il y en a un qui se convertit, l'autre est encore un païen. Le païen, lui, continue d'aller voir le sorcier, d'avoir des rapports avec le démon, etc. Et dans des tas de cas, ça fait des problèmes énormes dans les ménages, parce qu'il ne veut plus de cohabitation pacifique avec son épouse, il va la persécuter constamment. Il faut voir les persécutions dans les pays africains. Il va persécuter son épouse parce qu'elle est devenue chrétienne. Et c'est un cas très précis. Donc, je vous donne ici les textes. Donc, ce privilège en faveur de la foi a été promulgué par saint Paul, d'où le nom de privilège paulin. Pour la texte, si un frère a une femme infidèle et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme fidèle a un mari infidèle et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle et la femme infidèle est sanctifiée par le mari fidèle. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Mais si la partie infidèle se sépare, qu'elle se sépare, car le frère ou la sœur ne sont pas asservis en ce cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. Donc c'est saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 12 à 15. À cause du fait que c'est dans saint Paul, on appelle ça le privilège paulin. D'accord ? Donc le code de droit canonique en parle. Le mariage légitime entre non-baptisés, même consommé, c'est-à-dire avec relation conjugale, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin, qu'on appelle le privilège en faveur de la foi, parce que c'est pour protéger la foi des nouveaux convertis. Ce privilège ne vaut pas lorsque, lors d'un mariage contracté, est une partie baptisée, une partie non baptisée, avec dispense de l'empêchement de disparité de culte. C'est-à-dire, ce n'est valable que dans le cadre d'un mariage naturel entre deux païens. Okay. Autre article du code de droit canonique. Ça, c'est le code de droit canonique de l'Église catholique. Hein. Donc, le code préparé par saint Pélis est publié en 1917. Par son successeur, qui était, je crois, Benoît XV. Avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit demander à la partie non baptisée si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême, et si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur. Ces interprétations doivent toujours avoir lieu, à moins que le Saint-Siège n'en ait déclaré autrement. C'est qu'il faut d'abord que la partie catholique demande à son époux, naturellement époux, avec un mariage naturel, s'il accepte une cohabitation. Dans ce cas-là, on ne change rien et elle peut rester comme ça. Si la cohabitation pacifique est impossible, dans ce cas-là, il peut y avoir l'application du privilège paulin. Donc, je vous donne le texte ici. Le conjoint fidèle, même si depuis son baptême a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter un nouveau mariage avec une personne catholique et peut donc user de ce droit si, par suite, le conjoint infidèle ayant changé d'attitude se sépare sans juste cause ou ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur. Vous voyez, c'est des cas d'école, des cas très précis qui arrivent très rarement en Europe, mais qui peuvent arriver dans les pays de mission. À cause, si vous voulez, de la multiplication des problèmes, l'Église est obligée de faire des choses de ce genre dans les pays de mission où il y a la polygamie. Quatrième cas. Bon, c'est un cas qui est très rare aussi. On appelle ça le privilège pétrinien, donc de Saint-Pierre. Privilège pétrinien dans le cas d'un mariage valide, même consommé, contracté, soit entre un non-baptisé et un baptisé en dehors de l'Église catholique, soit entre un non-baptisé et un baptisé dans l'Église catholique après dispense de l'empêchement de disparité de culte. Bon, c'est des cas canoniques assez compliqués. C'est le cas d'un mariage entre une personne qui est baptisée et une personne qui ne l'est pas avec une dispense de l'Église. Bon. S'il y a une conversion de la partie non-chrétienne qui devient catholique, dans ce cas-là, c'est pareil, c'est un peu un cas de privilège paulin, mais dans un cas un petit peu différent de deux personnes dont une personne est baptisée dans l'Église catholique. Donc c'est un cas entre un non-baptisé et une personne baptisée dans l'Église catholique, mais qui sont mariés religieusement avec une dispense de disparité de culte. Pourquoi ? Parce que dans l'Église catholique, pas trop me lancer là-dedans parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais sachez simplement qu'il existe des dispenses qui peuvent être accordées. Si par exemple un monsieur catholique vient épouser une femme qui est une païenne, bon, ou une femme qui est une musulmane, ou une femme qui est une juive, bon, l'Église fait tout pour empêcher ces mariages comme ça. Dans certains cas très précis, l'Église peut accorder une dispense, qu'on appelle une dispense d'un empêchement, qu'on appelle l'empêchement de disparité de culte. Bon. L'empêchement de disparité de culte, ça veut dire un empêchement qui rend un mariage impossible. Pourquoi ? Parce qu'un bébé n'est pas baptisé, tout simplement. Donc l'Église peut, dans certains cas, a le pouvoir d'accorder une dispense sous certaines conditions. Condition, c'est que la partie non-catholique ne cherche jamais, laisse totale liberté à la partie catholique de pratiquer sa foi, et que tous les enfants à naître dans le mariage seront élevés dans la foi catholique. Et on voit très bien que l'Église a toujours la même doctrine dans ce domaine. Donc il ne faut pas dire que l'Église a changé sa doctrine, c'est toujours la même. Il y a un très beau texte que j'ai mis en conclusion. Deux textes, un texte de la première aux Corinthiens de Saint Paul. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, et ménagera aussi une heureuse issue en vous donnant le pouvoir de la supporter. On va terminer cette partie doctrinale, avec un texte magnifique du pape Pion. C'est que c'est le pape Pion qui a fait le 31 décembre 1930 une magnifique encyclique Casti Connubii sur le mariage chrétien. Et voilà ce qu'il dit. Comme certains, il parle aux prêtres, hein, comme certains s'écartant manifestement de la doctrine chrétienne telle qu'elle a été transmise depuis le commencement et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d'une façon retentissante une autre doctrine, l'Église catholique, debout au milieu de ses ruines morales, élève bien haut la voix par notre bouche en signe de sa divine mission pour garder la chasteté du lit nuptial à l'abri de toute souillure. C'est un texte infaillible, attention, là, c'est magnifique, extraordinaire. Hein. Si un confesseur ou un pasteur d'âme, ce qu'à Dieu ne plaise, induisez en ses erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou du moins, soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les y confirmait, qu'il sache qu'il aura à rendre à Dieu, le juge suprême, un compte sévère de sa prévarication. Qui considère comme lui étant adressé ces paroles du Christ, ce sont des aveugles où ils sont et ils sont les chefs des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. Donc il faut bien comprendre que la doctrine de l'Église catholique sur le mariage ne peut pas changer parce que c'est une suite du droit naturel. D'accord ? Donc, quand des gens, si vous voulez, maintenant vous parlent ou envisagent une annulation de mariage, il faut tout de suite leur dire, madame, monsieur, un mariage ne s'annule jamais. Bon, il y avait un vieux missionnaire qui m'a raconté cette histoire. Et donc, il y a deux personnes qui étaient mariées, religieusement, qui viennent voir le père dans un pays de mission. Et puis, ils s'assoient devant le père, devant le missionnaire, et puis ils disent, ben voilà, il y a un problème, on n'arrête pas, pas de se disputer. Alors, on vient vous voir pour que vous nous puissiez nous démarier, on veut redémarrer un mariage. Alors, le prêtre dit, ben il n'y a pas question, on va te marier pour la vie. Alors, non, on va te démarier. Bon, eh ben, alors le prêtre réfléchit un peu, il leur dit, bon, ben, écoutez, revenez demain à 10h, je vous démarie. Alors, ils sont tout contents, c'est une histoire vraie, hein. Le lendemain, 10h, ils débarquent, tous les deux. Le prêtre leur dit, à genoux. Ils se mettent tous les deux à genoux. Le prêtre a pris un énorme goupillon, mais pas un petit goupillon, un gros goupillon avec une grosse tête de goupillon. Il a donné un grand coup sur la tête du mari. Alors qu'il poussait un cri, il dit, mais ça va pas. Et puis après, un grand coup sur la tête de l'épouse. Il commence à hurler, puis il recommence, poum, 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 poum. L'épouse décrit. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je vous démarie. On va continuer comme ça jusqu'à ce que l'un d'entre vous soit mort. À ce moment-là, vous serez démarié et vous pourrez vous remarier. Ils sont partis en courant. C'est son vrai, ils sont partis en courant, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas être démariés. Voilà. Mais faites attention parce que malheureusement, dans la tradition, vous avez de plus en plus de prêtres, y compris dans la fraternité des abbés, malheureusement, qui pensent qu'on peut obtenir qu'il y a des annulations de mariage. Une annulation de mariage n'existe pas. Les cas particuliers que je vous ai donnés sont des cas très particuliers, en général des cas de mission, et pratiquement toujours, sauf cas extraordinaire que j'ai expliqué, des cas d'un mariage entre personnes, d'un mariage non consommé. D'accord ? Bon, on revient au mouton là, on revient un peu à, pour terminer au moins ce chapitre 5, mais j'ai profité un peu de la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'acte de répudiation pour mettre les choses au point. Ça permet de répondre en même temps à plusieurs questions qui m'avaient été posées par Internet. Donc, on continue, page 43, donc versets 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « vous ne perjurerez pas, mais vous acquitterez envers le Seigneur de vos serments. Et moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Vous ne jurerez pas non plus par votre tête, parce que vous ne pouvez rendre un seul cheveu de vos cheveux blanc ou noir. Mais que votre langage soit oui, oui, non, non, car c'est ce qu'on ajoute, ce qu'on ajoute vient du mal. Hein, donc, attention, donc c'est une partie de l'évangile qui rappelle qu'on ne fait pas de jurement, tu ne jureras pas. Hein. Donc c'est un des commandements, du bon Dieu. Donc on ne peut pas faire de serment sans une raison proportionnée gravissime. Hein. Donc les expressions vulgaires qu'on entend régulièrement, je te jure par la tête de ma mère, c'est des choses qu'on n'a absolument pas le droit de faire en tant que catholique. Hein. Par contre, on a le droit de faire des serments pour des choses gravissimes. Par exemple, en cas dans un tribunal, on pourrait jurer de dire toute la vérité, avec la vérité que la vérité. D'accord ? Alors, dans un sens spirituel, une petite note des pères de l'Église, le ciel signifie les âmes saintes et la terre les pécheurs, parce que l'homme spirituel juge toutes choses. Et que Dieu a dit aux pécheurs, vous êtes poussière et vous retournerez en poussière. Hein ? Donc le commandement, c'est le deuxième, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est ça, c'est qu'on ne prend pas, on ne jure pas devant les hommes en prenant le nom de Dieu. D'accord ? Alors, j'avance parce que ça, c'est des parties relativement, il y a peu de commentaires des pères, donc j'ai passé un peu. Fin de page 43, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne point résister aux méchants, et si quelqu'un vous a frappé sur votre joue droite, présentez-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut vous appeler en jugement pour vous prendre votre tunique, abandonne-lui encore votre manteau. Si quelqu'un veut vous contraindre à faire 2000 pas, allez avec lui pendant 2 autres 1000. Donnez à celui qui vous demande, et si quelqu'un veut emprunter de vous, ne vous détournez pas. Encore une fois, faire attention à l'application de ces choses-là. Hein. Il faut avoir un peu de bon sens. Le bon Dieu ne vous demande pas d'aller accepter toute la misère de la planète dans notre pays. C'est ce qui se passe actuellement avec les migrants. Bon, du bon sens. Bon. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a fait des promesses, aussi c'est important, il y a une obligation de tenir compte de ses promesses. Hein. J'ai fait une promesse de remboursement, même à une banque, par exemple, j'ai signé un papier, par exemple, pour payer une traite de votre maison, etc. Strictement parlant, même si c'est de l'usure, malheureusement, donc ça c'est complètement avalé, mais en soi, quand on promet de rembourser quelqu'un, il y a une obligation conscience. Hein. Et si c'est une somme importante, c'est une obligation en matière grave. Hein. Moi, j'ai eu des tas de problèmes avec des gens. J'ai eu plusieurs fois de prêter de l'argent, parfois des sommes assez importantes à des personnes qui étaient vraiment dans la difficulté, qui me promettaient de la rendre et j'attends toujours le remboursement. Vous voyez, sur des sommes parfois très importantes. Alors là, il faut faire attention. Oui. Et parfois, les gens disent « Oh, c'est des curés, ils sont pleins d'audace. » Mais attendez, vous avez une obligation de rembourser votre créance. D'accord ? Alors, page 44, on va terminer 44 et 45. Donc, là, c'est surtout sur la vertu de charité qui doit être bien comprise et pas être comprise de travers. Hein. Le Seigneur, en nous ôtant le droit de nous venger, tranche donc jusqu'à la racine même du péché. C'est en haut de la page 44. Dans la loi, la faute est corrigée. Ici, les commencements même du péché sont détruits. Donc, le bon Dieu demande pas simplement de ne pas se venger, mais de ne pas avoir le désir de se venger. Bon, ceci dit, vous avez parfaitement le droit, même pour un catholique, si quelqu'un vous vole, si quelqu'un a été complètement injuste dans un contrat naturel, un contrat d'achat de voiture, vous vous rendez compte qu'il y avait un vice caché dans la maison que vous avez acheté, un vice caché dans la voiture que vous achetez, ou dans, pour toute autre chose de ce genre, un catholique a parfaitement le droit de porter plainte, par exemple, et d'amener son acheteur, le vendeur devant un tribunal pour obtenir réparation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça prend des temps, qu'il faut beaucoup d'argent pour faire ça, qu'on n'obtient pas grand-chose en général. D'accord ? Alors, il est intéressant de voir comment les pères de l'Église interprètent de façon spirituelle le terme joue droite et joue gauche. Donc, qu'est-ce que représente pour les pères de l'Église ces mots droit et gauche ? Donc, en fait, ça représente une distinction entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Donc c'est le deuxième paragraphe de la page 44. On ne peut distinguer le visage en visage droit, et un visage gauche, cependant, on peut avoir une double dignité, l'une selon Dieu, l'autre selon le monde. De là, cette distinction de joue droite et de joue gauche, distinction qui apprend à tout disciple de Jésus-Christ, qui voit mépriser en lui son caractère de chrétien, à se montrer disposé à souffrir les mépris qui tomberaient sur les honneurs temporels dont il est revêtu. Alors bon, je ne vais pas lire tous les textes là, parce qu'on n'a pas trop de temps, c'est pour ça que j'ai mis aussi un peu du copier, ça vous permet de travailler un peu par vous-même ces textes. Donc, il faut quand même que les choses soient claires. Toutes les offenses, disent les pères, auxquelles nous sommes exposés, peuvent se diviser en deux choses, deux classes. Les offenses qu'on peut réparer et les offenses qui peuvent l'être. C'est justement dans les offenses où la réparation n'est pas possible qu'on cherche ordinairement la consolation de la vengeance. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe même de la vengeance, pour un catholique, est inacceptable. C'est inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi. Et il faut encore une fois de l'équilibre. C'est là où la prudence va intervenir. Vous n'êtes pas obligé, sous prétexte que vous êtes chrétien, encore une fois, de laisser les migrants venir prendre votre maison, de venir prendre vos biens, de venir violer votre femme et vos enfants sous vos yeux. C'est évident que vous ne pouvez pas accepter des choses comme ça. Donc, on vous a frappé, dit les pères, à quoi vous sert de rendre le coup que vous avez reçu? Avez-vous guéri ainsi la blessure qu'on a pu faire à votre corps? Non, sans doute, il n'y a qu'une âme où la colère déborde qui puisse désirer de pareils adoucissements. En fait, ce qui est visé par tous ces textes, c'est la colère. Et surtout la haine. Colère et la haine, bon, qui sont des choses qui, dans certains pays, je vous ai déjà souvent expliqué ça, j'y reviens pas, sur les pays africains, c'était un problème énorme pour les missionnaires. La haine qui était maintenue constamment. Alors, voyons un petit peu, je pense, la partie importante, le sens mystique qui est derrière. Alors, dans le texte ici, lorsqu'on nous frappe sur la joue droite, nous devons présenter non pas la joue gauche, mais l'autre joue. Le juste n'a pas de gauche. C'est ce que veulent dire les prêtres. Par exemple, disent les pères, si un hérétique nous frappe dans la discussion et qu'il veuille porter atteinte au sens droit d'une vérité dogmatique, nous devons lui opposer un autre témoignage semblable tiré de l'Écriture. Vous voyez ? Donc faire un petit peu attention, encore une fois, le bon Dieu ne vous demande pas d'appliquer à la lettre ces choses-là qui ont souvent un sens mystique très marqué. Le bon Dieu ne vous demande pas, encore une fois, si quelqu'un veut rentrer dans votre maison pour voler votre portefeuille, de lui indiquer où vous gardez les lingots d'or de la maison, s'il y en a, d'accord ? Du bon sens élémentaire. Alors, autre chose, en bas de page 44, il y a des points importants, vous pouvez encore une fois lire tout ça, mais je ne vais pas transformer le cours en une simple lecture du polycopier, sinon on ne s'en sort pas. Le Christ nous fait donc, deuxième paragraphe ou troisième paragraphe avant la fin de la page 44, le Christ nous fait donc un devoir de prêter, mais sans condition d'usure. Car celui qui prête en cette condition ne donne pas ce qui est à lui, il prend ce qui ne lui appartient pas. Donc là, je n'ai pas trop me parler parce que ça prend on en verra ça, un traité de la justice avec ce Thomas d'Aquin. Mais l'usure est quelque chose d'immoral. La seule chose, nous dit l'Église, qui peut justifier un intérêt, c'est la... Comment on appelle ça l'inflation, voilà. Bon. Évident que si vous prêtez une somme d'argent, par exemple 10 000 euros à quelqu'un, bon. Et puis qu'il va y avoir une inflation qui fait que vos 10 000 euros d'aujourd'hui, quand on va vous les rembourser dans 5 ans, eh bien ça, il va falloir rembourser 12 000 pour avoir la même somme. L'inflation autorise un intérêt. Mais c'est la seule chose. Et donc le système de l'usure capitaliste dans les banques actuelles, c'est tout simplement du vol organisé. Du vol organisé. Malheureusement, c'est très difficile de ne pas passer par les banques dans la pratique. Il y a des gens qui ont essayé justement à cause de ça de sortir complètement du système bancaire. Mais ce n'est pas évident du tout. Ça peut être fait dans certaines petites communautés, entre autres. Il y a des gens qui ont commencé ça, j'ai connu ça aux États-Unis, dans les petites communautés, des gens qui commencent à pratiquer de plus en plus le troc. Mais ce n'est pas évident, parce que ça va pour les petites choses. Alors tu viens me repeindre ma maison et moi je te donne 350% de patates, des choses comme ça. Oui, donc ça, c'est en soi, le troc est quelque chose de tout à fait légitime. C'était le système ancien, d'accord ? Le système de systématiquement de prendre un intérêt sur l'argent, et c'est un vol parce que on augmente de façon complètement artificielle la valeur de l'argent. D'accord ? Donc voilà ce que disent ici les pères. Il brise, donc je répète cette phrase à la fin, en bas de la page 44. Le Christ nous fait donc un devoir de prêter, mais sans condition d'usure, car celui qui prête à cette condition ne donne pas ce qu'il a à lui, il prend ce qui ne lui appartient pas. Il brise un des liens de l'emprunteur pour le charger d'un plus grand nombre de chaînes. Il donne, ce n'est point par un principe de justice divine, c'est donc dans une pensée tout intérêt personnel. D'accord ? L'argent qu'on prête à usure, disent les pères, est semblable à la morsure d'un aspic. De même que le venin de l'aspic répand secrètement la corruption dans tous les membres, ainsi l'usure fait de tous les biens autant de dettes. La seule chose qui puisse autoriser à demander un intérêt pour un prêt est le risque réel d'inflation, car personne ne peut nous demander de perdre volontairement de l'argent dans un cas semblable, surtout si la somme est importante. Vous voyez ? Mais déjà, comment les pères étaient très très opposés à l'usure, surtout au début de l'histoire de l'Église, était pratiquée pratiquement que par les Juifs. C'est une des raisons pour laquelle il y a eu des tas de problèmes dès le début au Moyen-Âge avec l'usure pratiquée par les Juifs. D'accord ? Alors, on va terminer rapidement la page 45 pour terminer ce fichier avec les derniers versets du chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. » Et moi, je vous dis, page 45, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains ne le sont-ils pas aussi ? Et si vous ne saluez pas que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens ne le font-ils pas aussi ? Soyez donc parfaits, vous comme votre Père Céleste est parfait. Encore une fois, il faut du bon sens dans l'interprétation de ces textes. Le bon Dieu ne vous demande pas, encore une fois, de... Quand il dit par exemple, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, le bon Dieu ne vous demande pas, à cause de cette phrase, d'ouvrir votre porte à des gens qui vont être introduits dans la maison, qui vont détruire toute la maison. On a eu comme ça certains groupes, quand j'étais à la Fraternité Saint-Pélice, on a eu des problèmes, des prêtres qui étaient très imprudents dans ce domaine, donc qui acceptaient très facilement dans le presbytère des vagabonds, des gens qui venaient demander l'aumône, etc. Et puis il y a eu des cas où les gars sont partis avec tous les vases sacrés, et des tas de problèmes comme ça. Oui, donc il faut du bon sens, et encore une fois, là, La prudence ne va pas en, ne va pas la prudence ne perd pas ses droits dans ce domaine. D'accord ? Dieu nous force de comprendre comment nous pouvons dans un seul et même homme haïr le mal qu'il commet et aimer la nature dont il est revêtu. Ce que disait saint Augustin, aimer le pécheur, haïr le péché. Bon, encore une fois, quand on dit qu'il faut aimer nos ennemis, c'est comme si on disait qu'il faut aimer le pécheur. Il faut aimer la nature du pécheur, la nature humaine du pécheur. Vous suivez ? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter la situation dans laquelle est le pécheur ou qu'il faut donner tout ce que vous avez à vos ennemis. C'est peut-être qu'il faut aimer nos ennemis. D'accord ? Donc, j'ai mis ici quelques textes des pères. Les ennemis de l'Église lui font la guerre de trois manières : par la haine, par le discours et par les supplices. Donc l'Église, au contraire, leur oppose l'amour, aimez vos ennemis, les bienfaits, faites du bien à ceux qui vous haïssent, la prière, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient. Oui. Donc, ce que le bon Dieu veut, c'est qu'il n'y ait pas en nous de haine. Bon, vous avez été injurié, calomnié par quelqu'un, cette personne se retrouve, pour des raisons indépendantes de votre propre volonté, se retrouve à la rue vraiment complètement destituée. Eh bien, cette personne vient vous demander de l'aumône. Il ne faut pas dire, celui-là, pas question que je lui donne un centime, parce qu'il m'a calomnié, il a menti contre moi. Non. Là, le bon Dieu vous demande de mettre votre petit orgueil dans la poche, pardonner à cette personne-là et faire l'aumône à cette personne-là. Oui, ça, c'est du bon sens élémentaire. Encore une fois, c'est la vertu de prudence qui va nous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, justement pour conserver la justice dans tout ce domaine. Un chef de famille a le droit et le devoir de préserver sa famille. Donc il serait imprudent pour lui de donner toutes les économies de la maison, sous prétexte qu'on va aider un pauvre à la porte, et puis du coup, son épouse et ses enfants n'ont plus de quoi vivre. Vous voyez ? Encore une fois, il faut du bon sens. Alors, on va terminer par les dernières phrases donc, de la page 45 sur le polycopier. Voyez par combien de degrés le Sauveur nous fait monter et comme il nous établit sur le sommet le plus élevé de la vertu. Donc, il y a toute une série d'étapes, si vous voulez. Premier degré, c'est ne pas prendre l'initiative de l'injure. Ça, c'est bien le minimum. Second degré, ne pas la venger par une injure égale. C'est pas parce que vous êtes injurié par quelqu'un qu'il faut en faire autant. Le fait que vous ayez été injurié par quelqu'un ne vous donne pas le droit d'injurier la personne. D'accord ? Troisième degré, ne pas faire endurer à notre ennemi ce qui nous a fait souffrir. C'est un peu la même chose. Quatrième degré, c'est de s'exposer soi-même à la souffrance. Cinquième degré, donner plus ou de se montrer disposé à faire de plus grands sacrifices que ne le veut notre ennemi. Et on monte de plus en plus dans la perfection. Sixième degré, ne pas avoir de haine pour celui qui se conduit de la sorte. Septième, de l'aimer. Huitième, de lui faire du bien. Neuvième, de prier pour lui. Et comme c'est là un grand commandement, il lui donne pour sanction cette magnifique récompense de devenir semblable à Dieu, afin que vous soyez, dit-il, les enfants de votre Père Céleste qui est dans les cieux. Et on monte dans la générosité de la charité. Bon. On dit que l'acte suprême de la charité, dans ce domaine-là, c'est d'oublier les offenses contre soi-même. Ce qui est pratiquement impossible humainement parlant. On peut arriver à pardonner à quelqu'un qui nous a injurié, qui a fait des choses épouvantables contre nous. On peut arriver à lui pardonner. Oublier, c'est presque impossible. Il n'y a pratiquement que Dieu qui peut faire ça. Bon, mais c'est arrivé chez des grands saints. Hein. Mais il faut vraiment un grand, grand degré de sainteté pour que vraiment, il puisse oublier les injures. Un homme, même un grand catholique, peut pardonner, mais oublier, pratiquement impossible. Il faut vraiment des grâces toutes particulières du bon Dieu. Tout en louant sa libéralité, pensons au châtiment dont Dieu frappe ceux qu'il aime et concluons qu'on n'est pas ami parce qu'on épargne la correction, qu'on n'est pas ami parce qu'on châtie, car il vaut mieux aimer avec sévérité que de tromper avec douceur. C'est un texte de livre des Proverbes. Il vaut mieux aimer avec sévérité que de tromper avec douceur. Ça, c'est toute l'éducation des enfants. Si un enfant, un père de famille aime son enfant, mais rappelez-vous l'adage, qui aime bien, châtie bien. Bon, et la pire des choses que vous puissiez faire à votre enfant, c'est de laisser faire ce qu'il veut. Hein. Souvent, les mamans avaient cette formule qui était très vraie, en disant à son enfant, le jour où je te laisserai faire n'importe quoi, tu pourras savoir ce jour-là que je t'aime plus. Mais tant que je t'aime, en tant que père de famille, je te dirai non quand je dois te dire non. Vous voyez. Bon, donc on a terminé donc le premier fichier de Saint Matthieu. Donc, si Dieu veut, mardi prochain, donc on commencera le deuxième fichier de Saint Matthieu, c'est-à-dire les chapitres. J'ai mis 5 chapitres par fichier. Hein. Donc les chapitres 6 à 10 de Saint Matthieu. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pilis, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.